Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est une variante de l'histoire d'une nagra volée dans un train puis retrouvée sur eBay qui vous avait mobilisé au printemps dernier. Cette fois, c'est un zoom, un enregistreur d'appoint que Karine Lelouette emporte avec elle en 2009 à la conférence sur le climat qui se tient à Copenhague. Elle enregistre en particulier un colloque de religieux pour le climat. En gros, un parterre de rabbins, imams, moines bouddhistes et autres pasteurs évangéliques en tout genre, venus de partout dans le monde pour parler de leur mission, c'est-à-dire convaincre leurs ouailles de l'importance de la lutte contre le changement climatique. À la fin de la conférence, elle laisse son zoom sur une chaise un instant et une minute plus tard, il a disparu. Elle le cherche partout, dans la salle, sous les chaises, sur la scène, rien. Le soir, Karine Lelouette contacte alors la responsable de l'association qui promet de se renseigner. Quelques jours plus tard, un pasteur évangélique exalté lui envoie des messages pleins de cœur et de « Jesus loves you » avant de lui donner rendez-vous pour lui rendre son zoom. Mais rentrée à son hôtel, Karine découvre que tous ses sons ont disparu et qu'à la place, il y a des heures de chants bouddhistes. Quelques mois plus tard, Karine Lelouette reçoit un étrange appel venu d'un moine bouddhiste vivant dans un monastère à New York. Il a également perdu un zoom lors de la COP15 et a enfin découvert que son appareil avait été interverti lors de cette fameuse conférence. Par contre, il a effacé tous les sons, mais espère bien que Karine, elle, a gardé ses précieux chants. Et c'est le cas. Le moine propose donc de refaire l'échange. Méfiante et d'une bonté chrétienne toute relative, Karine attend de recevoir son zoom avant de renvoyer le sien. C'est peut-être cette histoire qui l'a motivée à chercher pour vous trois autres récits d'objets perdus et retrouvés ou pas, et quel effet cela fait à leur propriétaire, tout de suite dans Les Pieds sur Terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Donc, je m'appelle Aurélie Loyer. Voilà, et je suis musicienne et j'enseigne la musique. Alors j'ai commencé vers 7-8 ans au violon et donc j'ai repris ensuite au tout début du collège à l'alto. Voilà, et j'ai plus arrêté. Alors un alto, on reste dans la famille du violon, mais on va être dans un format un tout petit peu plus grand, avec des sons un peu plus graves. C'est le lien entre le violon et le violoncelle. Dans ma famille, la musique, c'était un dérivatif. Et personne n'avait pu imaginer que je puisse me professionnaliser un jour. J'étais plutôt partie pour des études scientifiques. Voilà. Et j'ai mis très très longtemps à oser formuler que peut-être je voulais en faire mon métier. D'espèce de honte de dire que je voulais être musicienne, de ne pas être à l'aise avec ça. C'était un monde très très éloigné du mien. Et donc il y avait une surtimidité par rapport au luthier. Aller voir un luthier pour choisir un instrument, ce qui fait que je me suis toujours un peu trompée dans mes premiers choix d'instruments, avec un premier instrument qui avait un défaut même hein, de proportion, qui faisait que j'avais la main gauche qui était toujours en extension parce que c'était beaucoup trop grand. Et là, je me suis encore complètement plantée. Et puis quelqu'un a dit « Ah ben moi j'ai un instrument à vendre ». Alors donc du coup, j'ai rencontré un alto, on va dire, mais encore quelque chose de trop trop grand, trop lourd pour moi. Un moment assez étrange de ma vie. Puis à un moment, je me marie avec quelqu'un de très gentil, très bien. Et puis au bout d'un an ou deux de mariage, on se rend compte que c'est la catastrophe. Quand je dis catastrophe, j'habitais au sixième étage, je me mettais à regarder le rez-de-chaussée. Hein. Donc il faut, voilà. Et je comprends après que c'est toute ma vie qui sonne faux. Et à ce moment de la séparation où j'ose franchir ce pas, eh bien je décide, je sais qu'il faut que je change d'instrument. Et une nuit, voilà, je me dis je vais y aller et j'entends le son. J'entends le son que je veux, je sais ce que je veux. Et ça, c'est très rare dans ma vie de savoir. Il y a eu deux choses. Je sais que je voulais faire de la musique. Et après, je sais quel instrument je veux. Et là, le matin, je vais chez un luthier à Paris. Et puis, il me fait essayer un premier instrument qu'il a lui-même construit. Et là, c'est le son que j'ai imaginé la nuit. Et là, je me dis, mince, je réessaye. C'est celui-là. Alors, je repars avec pour pouvoir l'essayer. En connaissant son prix, qui était hors budget complètement pour moi. Et c'est un instrument à 15 000 euros. Donc là, des amis, notamment les personnes avec qui je faisais du quatuor, me disent, mais non, enfin, on n'achète pas un instrument comme ça. Donc je rends l'instrument. Et puis, à peu près 2 mois après, on arrive vers la fin de l'année scolaire. Je me dis, et au fait, mon alto, là, une espèce de panique de passer à côté. Je me lève, je vais à Paris, je vais chez mon luthier, je dis, je viens chercher mon alto. Sur le coup, la couleur, tout ça, je le reconnais à moitié et je le prends dans les mains. Et là, je dis, ah oui, c'est celui-là. C'était celui-là, il était revenu la veille. Et au poids, au toucher et improbable à l'odeur, je le mets contre moi et c'était lui. Il n'y avait pas de. C'est-à-dire, j'ai eu des enfants après, mais j'ai reconnu quelque chose qui ressemblait à ça, à ce côté, on le met contre nous et on sait que c'est lui, quoi. Voilà. Donc là, tout à coup, il n'y avait plus de barrière financière. Et je repars avec et tout se passe très bien. Tout ce que je voulais, ça passait. Voilà. Il n'y avait plus jamais la hantise de louper quelque chose. Je savais qu'il suffisait de travailler pour y arriver. Mais je savais qu'en concert, ça passerait. Enfin, voilà. Très peu de. Une confiance, en fait, absolue en l'instrument, en fait. Donc arrivent des vacances d'hiver, on part au ski tout simplement, et on revient une semaine après, on revient de nuit, hein, on arrive assez tard le soir, on rentre dans la maison, c'est mon compagnon qui est rentré le premier avec ma fille, et il me dit, on s'est fait cambrioler. Alors là, c'est comme un uppercut. Hein. Je lui dis, ça va? Il me dit, oui, ça va. Enfin, non, mais oui. Il y a une pièce avec une verrière. Et là, je vois tout de suite le vide. Je lui dis, la boîte est partie. Il est parti. Je sens, très étrangement, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça, comme si un poids était parti. C'est-à-dire, je me sens plus légère. Je ne sais pas pourquoi. D'un seul coup, je sens comme un poids aussi qui s'en va. Et puis aussi, de me dire, mais ils sont cons. Ils ont fait, pourquoi ils l'ont pris? Il peut pas se revendre, il est reconnaissable, ils ont fait une connerie. Ils vont le ramener. Ils vont le rapporter. Cette certitude, tout de suite, c'est pas grave, il va revenir. Et quand on trouve son instrument à cordes, c'est pour la vie. Donc jamais. J'avais pensé un jour avoir à changer d'instrument, d'archet peut-être, mais pas l'instrument. Et la semaine suivante, c'est peut-être pathologique, je regarde tous les soirs autour de la maison, dans le jardin, s'ils ne l'ont pas rapporté. Et pied de nez au cambrioleur, j'avais un deuxième alto, le fameux, l'alto qui était très difficile à jouer, mais qui m'a quand même accompagnée pendant de longues années. Je le retrouve un peu comme on retrouve un vieux copain. Premier jour, ah super. Deuxième jour, troisième jour, ça va pas aller. C'est pas seulement parce qu'il est difficile à jouer, parce que je sais le jouer, je l'ai joué, mais c'est que je réalise que ça me renvoie vers le passé, cet instrument, et que je ne peux plus jouer avec lui. À partir de là, je programme plus rien, plus aucun projet. J'attends que mon alto revienne. On arrive vers le mois de mai, fin d'année scolaire, fin des projets avec les enfants. Depuis longtemps, longtemps, je tiens absolument à aller dans les classes de CP. Mais c'est l'endroit où je décide, depuis quelques années, à chaque intervention, de sortir mon instrument, même quelques minutes, et de jouer. Et bien là, c'est vraiment la seule chose que je n'ai plus pu faire. Et j'arrive à la toute fin de ce projet. Je réalise que c'est la dernière fois que je vais les voir avant le spectacle. Et je dis, il faut que je joue. Je réalise ça un lundi, je les voyais le jeudi. Et là, il y a une vague de fond qui remonte. C'est la première fois que je pleure, je crois. Ça se passe le soir, je m'endors, c'est voilà, l'heure où on pense. Et là, une énorme douleur qui arrive. Voilà. Du coup, tout ça en moi déclenche quelque chose. Je pense que c'est ce vendredi-là où je vais chez le luthier. Et là, j'essaye d'être digne. Et là, grand silence. Je sens qu'il est profondément touché. Et puis tout à coup, il dit « Je sais ce qu'il vous faut ». Et il sort un instrument à 5 cordes, qui allie le violon et l'alto. On appelle ça un quinton. Il a les cordes de l'alto plus la corde aiguë du violon. Et je dis « C'est parfait ». Et donc pendant un mois et demi, je joue cet instrument avec... Je découvre beaucoup de plaisir. Bon, bien sûr, il y a un problème. Hein. C'est quand j'arrive sur les cordes qui devraient être des cordes d'alto, ça sonne plus comme un violon. Alors, dans les cordes d'alto, il y a un La, la plus aiguë, un Ré, un Sol. On commence à être dans vraiment le son plus grave, et puis un Do qui est très grave. Et ce Sol, c'est vraiment la corde ronde, la corde moelleuse, une corde assez fantastique. Voilà. Et là, à chaque fois que je joue cette corde de Sol sur le quinton, ça fait mal parce que c'est pas de l'alto. Voilà. Arrivent les vacances. Donc je retourne chez mon luthier. Et je lui dis, écoutez, je vous le ramène, je vous le rapporte, je peux pas. Je préfère pas le garder à la maison. On part avec les enfants en vacances, on part en Irlande. Et au moment où on est sur les falaises, et au moment où il y a ces grands espaces, je sens cette vague qui remonte, ce manque, cette douleur, cette, la colère aussi qui commence à arriver. Et puis, quand je reviens de vacances, je ne vais pas chez le luthier. J'ai besoin de silence. Je laisse du silence, je ne touche plus à rien. La rentrée arrive. Il va falloir quand même que j'ai un instrument, quelque chose qui me convienne. Et je passe un coup de fil au luthier. Et donc, c'était la semaine dernière. Et puis, bon, je trouve un magnifique instrument, mais très différent parce qu'il est beaucoup plus petit. Et là, ça fait une semaine que je suis avec lui. Alors, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la première rencontre que j'avais fait il y a 9 ans. Mais voilà, j'ai un instrument à la maison que j'aime beaucoup, auquel je fais une place. Mais à chaque fois que je lui fais une place, je culpabilise. Ou alors, non, je ne culpabilise pas, mais ça me fait mal parce que je pousse l'autre. Quelque part, voilà. J'ai la sonorité de l'autre qui vibre en moi encore, je pense. J'ai toujours peur qu'il ait été détruit, qu'il ait été laissé quelque part, qu'il soit abîmé. Ça, ce serait vraiment atroce, quoi. Et je me dis, si l'autre revient, est-ce que je saurai encore jouer avec? Est-ce que je vais toujours l'aimer? Enfin...
Ça remonte à Noël 2014. Je descendais dans ma famille pour les fêtes. Une fois arrivée à Limoges, je commence à tout ranger précipitamment et là j'entends un boum. Donc, je me dis mince, qu'est-ce qui est tombé? Je regarde et je vois juste mon stick à lèvres. Je le ramasse, je prends toutes mes affaires, j'avais 2 valises. Je descends sur le quai de la gare avec mes valises et là je me rends compte que j'ai perdu mon téléphone. Le train part. Et là, je prends le temps de bien fouiller toutes mes affaires partout. Et je constate que j'ai pas de téléphone. Donc je commence à comprendre que même si j'ai perdu mon téléphone dans le train, quelqu'un l'a trouvé et a dû l'embarquer. Pour moi, je l'avais payé avec mon premier salaire, j'avais mis de côté, c'était un cadeau que je m'étais fait. Et surtout, j'avais beaucoup de souvenirs, des photos. Et ouais, j'avais l'impression d'avoir perdu ma vie. Surtout que là, je commençais l'école de journalisme, donc j'avais beaucoup de contacts professionnels qui me tenaient à cœur que j'ai perdu. Même des anciens amis dont on a gardé le numéro de téléphone, perdu. Et surtout, j'avais tout, j'avais mon compte en banque, j'avais toutes mes informations, enfin tout ce qui est utile dans mon quotidien, mais c'est toute ma vie. C'est-à-dire que quelqu'un a accès à mon téléphone aujourd'hui, c'est horrible et c'est effrayant en fait. J'ai pas porté plainte parce qu'on me l'avait pas volé, je l'avais perdu. Non, parce que, en fait, ça me paraissait inimaginable que derrière on s'en serve contre moi en fait. Et le 31 mai 2016, donc presque deux ans, plus d'un an et demi plus tard, je reçois un message sur WhatsApp. Bonjour à vous, je sais que vous devez probablement vous demander qui je suis. Rassurez-vous, je vis au Cameroun. Là, il m'envoie deux photos de mon téléphone et il me dit « Reconnaissez-vous ceci ?» Là, j'en reviens pas. Et il m'explique très rapidement, il me noie de messages en m'expliquant qu'il l'a eu comme gage par un de ses amis. Sauf que, au moment de s'en servir, il s'est rendu compte qu'il était bloqué. Je sens venir l'arnaque, on en a toujours, je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a été arnaqué par des gens comme ça à distance. Les premiers jours, il m'envoie énormément de messages, on s'envoie beaucoup de messages, peut-être 50 ou une centaine de messages par jour. Des messages très très longs et des messages, parfois il m'envoie des messages vocaux. Bon, enfin bref, il me dit « j'ai besoin d'argent pour continuer mes études et ton téléphone c'est tout ce que j'ai ». Donc il m'explique que s'il a les codes, qu'il peut le débloquer, alors il sera réutilisable, alors il pourra le revendre et donc récupérer de l'argent qu'il pourra lui permettre de continuer ses études. Très vite, je lui dis « c'est hors de question ». Les messages continuent et continuent à me raconter sa vie et il me dit qu'il est étudiant, qu'il n'a pas d'argent, qu'il est très honnête, qu'il est dans une situation catastrophique, qu'il ne sait pas quoi faire, qu'on abusait de sa bonté, qu'il... Et au final, ça finit par m'atteindre, je pense. Donc je commence à mettre un peu d'eau dans mon vin et on commence à négocier. Sauf qu'il me parlait de... Il me disait, mon téléphone actuel a une valeur de 160€, donc le vôtre à peu près aussi, donc contre 160€, je vous le renvoie. Donc je lui dis non, c'est hors de question, 50€ ou rien. Et il commence à me dire, mais 50€, ça me permettra pas de payer mes études, vous savez ce que c'est toute ma vie, je vais perdre une année entière. Désolé, mais c'est pas mon problème. J'essaie d'être froide, mais... Et je pense que je l'étais dans mes messages, parce que plusieurs fois, il m'a dit « Oh, t'es froide, t'es méchante. » Donc, je retourne au point de départ. C'était tout le temps ça, en fait, avec lui. J'avais l'impression qu'il acceptait. Et après, il me disait « En fait, non. » Au départ, il essayait pas d'être ami avec moi particulièrement. On était vraiment dans une espèce de négociation. C'était vraiment une espèce de guerre psychologique où on essayait chacun de s'en sortir, moi de récupérer mon téléphone, lui d'avoir de l'argent. Très vite, il m'a tutoyé aussi. Très vite, moi je pense que je l'ai vouvoyé jusqu'au dernier moment, lui très vite m'a tutoyé. Et au bout de plusieurs jours comme ça à négocier, il commence à aborder, mais longtemps après, il commence à demander des choses, à m'envoyer des messages plus bizarres, du style, qu'est-ce que je peux lire ? Le 8 août, il me dit, bonjour toi, des petits smileys, je réponds à un petit smiley avec des lunettes, il me fait, tu as des lunettes et moi pas, pourquoi ? Je réponds, c'est la vie. Comment tu vas ? Je réponds bien, et toi ? Moi, ça va pas fort. Ah, j'ai des céphalées depuis quelques heures. Va dormir, ça ira mieux demain. Salut toi, le 11 août. Le 13 août, bonjour toi, ça va ? 27 août, bonjour. Un petit café, un petit donut sans smiley. Bonjour, comment vas-tu ? Je réponds bien, et toi ? Ça va pas vraiment, j'ai perdu un ami cher. Bon. Je lui dis, mince, sincèrement désolée. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Si c'est vrai, c'est horrible. Donc... Il me dit merci, petit smiley qui sourit. Ah oui, et là, il me demande si je suis fan de Secret Story. Et là, donc on est au 29 août. Donc ça commence, ça fait 3 mois. Juin, juillet, août, le 29 août, il me dit « Et si on apprenait à mieux se connaître, qu'en dis-tu ? » Et là, j'ai pris peur. Et j'en ai marre. J'ai compris qu'il n'y avait aucun espoir, enfin que ça ne servait à rien. Et je lui ai dit « Vous êtes une personne méchante, je ne veux plus vous parler. » Mais ça a duré quand même un moment. À ce moment-là, je commençais mon stage à Berlin, j'étais toute seule. J'avais pas énormément de travail. Du coup, ça m'occupait énormément. Peut-être que c'est arrivé un moment dans ma vie où justement c'était un peu vide et c'est pour ça que c'était obsessionnel, j'en sais rien. Mais c'est sûr que c'était obsessionnel au début en tout cas. Parce qu'il jouait avec une... À la fois, il jouait avec un désir, une envie, un besoin de retrouver mon téléphone, il jouait sur un lien, etc. Mais en plus, il m'envoyait des dizaines de messages. En fait, il me laissait pas une minute de répit. Et je répondais. Je me disais pas que ça pourrait m'arriver à moi. En tout cas, je me disais, si la situation se présente, je piégerai, je sentirai l'arnaque directement. Or là, je suis incapable encore aujourd'hui de dire si c'était une arnaque ou si c'était quelqu'un de sincère.
Vous vous rendez compte de comment vous me traitez là ? Vous vous rendez compte de comment vous êtes en train de me traiter ? Vous me traitez comme un bandit, comme quelqu'un qui vous a volé, qui a pris votre téléphone, me dit donc redescendez sur terre s'il vous plaît. Je ne permets pas que vous me manquiez de respect ainsi. Si vous pensez que ce que j'ai fait depuis hier là, c'était juste pour avoir vos codes, vous pouvez vous les garder ces codes. Bonne soirée.
France Culture, les pieds sur terre. Je m'appelle Aurélie, j'ai 41 ans et je suis aide-soignante sur Saint-Brieuc. J'avais 19 ans à l'époque. J'étais toute jeune conductrice, je venais d'avoir mon permis. Et ce jour-là, je prends ma voiture pour aller chercher une copine. On décide d'aller dans un centre commercial et sur la route, on trouve une auto-stoppeuse. Elle s'installe bien sûr à l'arrière. Et j'avais à l'époque posé mon sac à l'arrière, sans faire attention, puisque j'avais pris ma copine à côté de moi. Et arrivée sur le parking du centre commercial, cette auto-stoppeuse, elle descend, mais elle descend très rapidement. Elle nous dit à peine au revoir. On a été un peu surprise. Et moi, je vais pour prendre mon sac. Et là, j'ai tout de suite une boule au ventre. Tout de suite, je m'imagine qu'il y a un problème. Et je découvre effectivement que dans mon sac, il n'y avait plus de portefeuille. Et puis, on n'a rien trouvé, quoi. On n'a pas trouvé la jeune femme et ni le portefeuille. Les jours ont passé et rien, quoi. C'est tout. Hein. Ma vie a continué, bien sûr. L'année dernière, c'était au mois de mars, je crois. J'étais dans mon canapé, là où nous sommes aujourd'hui, avec ma meilleure... c'est ma cousine, mais c'est comme ma sœur. Et là, ça frappe à la porte. Un homme se présente et me tend un portefeuille, me dit « Vous êtes Aurélie Talibar ?» Je lui dis « Oui, je crois que c'est à vous », me dit-il. Je regarde le portefeuille, que je trouve très moche. Je me dis « Ah non, c'est pas à moi ». Je dis « Regardez quand même à l'intérieur, parce que je suis persuadée que c'est à vous ». Je regarde à l'intérieur, et là, c'est le choc. Là, vraiment, j'ai les yeux écarquillés. Et je me dis « Mais c'est pas possible ». Forcément, avec tout ce qu'il y avait dedans, je reconnais le parfum. Je me repasse cette journée d'il y a 21 ans en arrière. Et là, je me dis « Mais c'est incroyable ». Voilà, donc je le remercie, enfin, je lui demande forcément... d'où il vient ce monsieur et en fait, il s'avère que c'est le propriétaire d'une brasserie implantée au centre commercial, de là où on se trouvait il y a 21 ans. Ce monsieur l'a trouvé dans un vieux placard que personne n'ouvrait. Mais comme il a décidé de faire des travaux en 2014, il trouve le portefeuille, il se dit « Tiens, tout est intact dedans, il faudra que je retrouve la personne, ce serait bien. » Mais bon, faudra. Donc le temps passe aussi de ce côté-là. Et puis en 2017, l'année dernière, il se décide. Il se dit « Tiens, je vais chercher l'identité de la personne sur Internet, c'est tellement facile. » Donc voilà comment il m'a retrouvée. Je pose le portefeuille là, sur cette petite table, et je lui dis « Mais regarde !» Je lui dis « Mais c'est pas possible, quoi !» Et là, on était comme à Noël, en train d'ouvrir un paquet. Voilà. Donc, je peux sortir toutes les petites photos d'identité. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a les réseaux sociaux pour les photos. Moi, à l'époque, j'avais tous mes amis en photo.
Mais il y en a combien ?
Ah oui. Ça, c'est moi avec un amoureux d'il y a très longtemps. Ah, ça, c'est mon papa. D'ailleurs, elle est où, la photo ? Ah voilà ! La photo de mes parents dans le photomaton. Regardez comme ils sont mignons.
Qui se regarde.
Ah, mon premier chat que j'ai eu 20 ans. J'ai eu pendant 20 ans. Eh ben, ma maman. Je faisais du tir, a priori, à l'époque. J'ai ma carte de tir. Il est où, mon billet? Ah, ben, il est là. Voilà. Et pour finaliser, le fameux billet de 50 francs. Ben voilà, cela dit, je suis ravie. Et là, je le garde comme si c'était la prunelle de mes yeux, en fait. Je le garde dans une petite boîte et restera, en fait, comme ça maintenant, jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait partie de l'histoire et de ce portefeuille. Donc, tout reste intact.
There was a time you put your hand on the small of my back. I was surprised that you touched me like that. But there in your hand was a current of life I could hardly stand. Or stay still, that I didn't imagine. If I did, I'd make some joke of it. It was strange how I could feel so sane, so plain when you were around. And unbidden to me, there it rose, the fantasy, color of rose and easy. Yeah, I could see it so simple, unsubtle, impossible, clearly and strange, foreign as close as a mountain range. On the horizon, driving all day, there I was so sane, so plain after everything.
C'était Les Objets Disparus, un reportage de Karine Lelouette réalisé par Milena Elig avec un coup de main de Clémence Grosse. Merci à Aurélie Loyer, à Sonia Reynaud, à Aurélie Talibar. Merci également à Cyril Gersten-Haber de l'ANIPO. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, notre stagiaire.
Gas stations are left unnoticed, fucking it.